RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Comment expliquer que, durant l'occupation, trois quarts des Juifs en France ont échappé à la mort? Un chiffre tout à fait exceptionnel en Europe. Et il ne s'explique ni par seulement l'action des 4000 justes parmi les nations connues en France, ni par une supposée mansuétude de Vichy, ardemment professée par le candidat Éric Zemmour. Il s'agit donc véritablement d'une énigme française, peu étudiée jusqu'à maintenant. Notre invité aujourd'hui a consacré plus de 20 années de sa vie d'historien, d'enseignant et de chercheur à explorer cette énigme. Jacques Semelin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des violences extrêmes et des génocides, des sujets que vous enseignez à Sciences Po depuis de longues années. Parmi vos livres, il faut citer « Persécution et entraide dans la France occupée », c'était au Seuil en 2013, et puis au CNRS en 2018 avec une préface de Serge Klarsfeld, « La survie des Juifs en France 1940-1944 ». Également au micro de RCF, Laurent Larcher, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à La Croix, vous êtes spécialiste de l'Afrique et vous avez travaillé sur les conflits, les violences extrêmes du Rwanda et de Centrafrique. Et voilà, vous avez croisé vos deux regards, celui du chercheur et celui du journaliste, pour publier ce livre absolument passionnant, édité chez Albin Michel, « Une énigme française, pourquoi les trois quarts des Juifs en France n'ont pas été déportés ». Cette enquête, au-delà des enjeux intellectuels et historiographiques, cette enquête est devenue pour l'un et l'autre une quête personnelle. Pas à pas, vous nous racontez comment et pourquoi vous proposez des éléments de solution à cette énigme française. Pourquoi les trois quarts des Juifs en France n'ont pas été déportés? Ce sera le thème de cette édition des Racines du présent.
Les Racines du présent. Frédéric Mounier.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien Jacques Semelin et du journaliste Laurent Larcher à La Croix pour un livre absolument passionnant intitulé « Une énigme française, pourquoi les trois quarts des Juifs en France n'ont pas été déportés ?» C'est publié chez Albin Michel. Alors Jacques Semelin, pour vous en tant qu'historien, c'était vraiment une énigme, une grande question. Pourquoi la France a-t-elle connu le taux de déportation le plus bas? 25% des Juifs français ont été déportés contre 75% aux Pays-Bas. Vous nous expliquez qu'il s'agit d'un quasi-angle mort de la recherche historique. Comment expliquer cet angle mort, Jacques Semelin?
Mais écoutez, c'est une question auquel je me suis intéressé en 2008. C'est Simone Veil qui m'interroge sur ce point, qu'il la travaille parce qu'elle a fait un discours pour l'entrée des justes au Panthéon en 2007. Je ne sais pas si on peut peut-être s'en souvenir. D'ailleurs, c'est très émouvant de l'écouter parce qu'on voit son interrogation sur le cas de la France.
Voilà, pour elle, donc, ça, c'était un mystère.
C'était un mystère. Et
pour elle, survivante de la Shoah.
De mon côté, j'étais spécialiste des crimes de masse, des génocides, de la Shoah, bien entendu. Et je ne m'y étais pas véritablement penché sur ce.
Même
sur,
vous.
Mais non, oui, mais voilà.
Qu'est-ce qui fait que cet angle mort n'est pas apparu à vos yeux, si j'ose dire?
Eh ben, parce que toute l'historiographie dominante était sur les 25%, donc avec Robert Paxton, bien entendu.
Et qui a publié La France de Vichy, voilà. On en reparlera dans quelques instants.
Et moi, je m'inscris dans la filiation de Paxton, mais pour lui, c'était pas un sujet, les 75%. Donc, ce questionnement de Simone Veil me trouve. Et c'est ce qui est raconté au début du livre. Et peu à peu, je vais entrer dans cette enquête. D'autant plus que je ne suis pas spécialiste de la France, il faut quand même le préciser. Moi, je suis plutôt à l'international. J'avais fait un livre sur les génocides, purifier et détruire, le Rwanda, la Bosnie, enfin bon, etc. Donc c'était complètement nouveau pour moi. Enfin, largement nouveau.
On va revenir pas à pas sur votre enquête. Peut-être faut-il rappeler le contexte, disons, idéologique et politique de la France des années 70-80. On se souvient que, et on l'a vu notamment, on l'a entendu à ce micro de nombreuses reprises, le général de Gaulle, pour reconstruire la France, avait en quelque sorte participé à reconstruire un peu le récit national français. Nous avons pu croire que nous avions tous été résistants, alors que Robert Paxton, qui a publié La France de Vichy, et puis ensuite Marcel Ophuls dans son film Le Chagrin et la Pitié, pitié qui a beaucoup touché beaucoup de monde, mmh. Eh bien, ces deux personnes nous ont rappelé que la France n'avait pas été intégralement résistante, en fait, et qu'il y avait une ambivalence structurelle.
Oui,
Jacques Semlin.
Mais bien sûr, c'est le temps de la mémoire. De Gaulle a joué la réconciliation nationale, et je pense qu'il a eu raison, d'ailleurs. Et puis, après, il y a eu l'idée qu'il y avait Pétain, c'était le bouclier, et De Gaulle, l'épée. Alors ça, c'est une théorie qui est largement contestée par les historiens, sauf par un certain monsieur Zemmour, d'ailleurs. Voilà. Mais vous revenez sur le film Le Chagrin et la Pitié. Simone Veil l'avait détesté.
Pour quelle raison ?
Ben parce que ce film présentait une vision, donnait une vision glauque des Français. Mmh. Et c'est pas ce qu'elle avait connu. Elle était adolescente quand même à l'époque, et tout ce qu'on lui a raconté aussi, etc. Donc vous savez, enfin, je sais pas si peut-être certains auditeurs on s'en souviennent, mais elle l'a fait interdire à la télévision française.
C'est
à
elle-même qui l'a fait interdire. On se souvient de la polémique à l'époque. Ouais, on avait crié à la censure.
Oui, oui. Et c'est quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, donc bien des années plus tard, donc en 1981, que le film a été présenté.
D'accord, donc il y a eu un vrai malaise.
Il y a eu un vrai malaise.
Alors voilà pour le contexte idéologique, la toile de fond en quelque sorte. Alors venons-en aux chiffres. Mmh. Jacques Semlin, vous rappelez dans votre livre que au début de la guerre, il y avait en France 320 000 juifs, à la fois français et étrangers. Mmh. Et à la fin de la guerre, donc 80 000 d'entre eux ont été tués, 240 000 ont survécu. Une précision sur les enfants, sur 70 000 enfants juifs en France, 11 385 ont été déportés sans retour, comme vous écrivez avec pudeur, et donc plus de 58 000 ne l'ont pas été. C'est bien ça les chiffres de base.
Oui, ces chiffres sont surtout établis par Serge Klarsfeld, qui dit que le taux de survie des enfants juifs en France est exceptionnel, d'ailleurs. Et il dit aussi à la fin de ce livre que dans l'Europe nazie, la France a la population juive qui a proportionnellement subi le moins de pertes. C'est Serge Klarsfeld qui dit ça. Mais est-ce que les Français en ont conscience ? Donc ça, c'était une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire ce livre. Mais l'autre point sur les chiffres, si vous voulez, il y en a 80 000 qui sont morts, il y en a 240 000 qui ont survécu. Bon, ils sont pas tous restés en France. Il y en a qui sont partis aux Suisses, en Espagne. Moi, je fais une estimation assez large de 20 000, qui sont partis. Il en reste 220 000. Pour ne pas me faire encore critiquer, attaquer, allez-y. Je fais au moins 200 000 juifs sont toujours en France en 1944. Sinon, bon, un peu plus.
D'accord.
Et donc, est-ce que c'est grâce à Vichy ? Non. On va pour en parler, c'est-à-dire c'est tout un débat. Est-ce que c'est grâce aux justes, vous l'avez dit dans l'introduction, ils sont 4 000, ça ne va pas expliquer les 200 000, c'est pas possible. Ce sera le travail remarquable des organisations juives et chrétiennes, comme l'Amitié chrétienne, par exemple, ou Notre-Dame de Sion. Oui, elle joue un rôle, mais les estimations les plus larges font qu'on pense à peu près à 10 000 personnes, surtout des enfants qui ont été pris en charge par ces organisations. Donc ça ne fait pas du tout le compte. Et mon hypothèse de départ, elle est toute simple, ce sont d'abord les Juifs qui... familles, individus qui ont fait le plus possible pour essayer de s'en sortir, pour se débrouiller. Et là, c'est cette histoire que je raconte, en fait.
Alors, on va raconter tout cela. Encore une précision, peut-être, sur les chiffres. Parmi les Juifs qui étaient présents en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des Français, dont certains étaient récemment naturalisés. Oui. Il y avait des Français étrangers. Est-ce que vous pouvez préciser ?
Oui, bien sûr. Quand on parle de Juifs, il faut bien sûr parler des nationalités. Il y a une multiplicité de nationalités en France en 1940. Vous savez, la France est considérée à l'époque comme le pays dont le taux de migration, une des migrants, des étrangers qui viennent en France, est le plus élevé au monde. Donc,
déjà,
c'est incroyable.
À l'époque.
Voilà. Ouais. Et donc,
il y a des Polonais, des Italiens,
des Russes, des, mais on va pas rentrer dans tout ça. Ça serait trop long, simplement.
Oui.
Il y a effectivement des Français israélites, comme on les appelle, c'est-à-dire qui sont intégrés à la société française depuis plusieurs décennies, et des nouveaux arrivants qui sont étrangers, c'est-à-dire qui n'ont pas été naturalisés français. Donc ce sont ceux-là qui vont être les plus en danger au début de l'occupation.
Alors, il y a un point qui suscite quand même l'interrogation. On se rappelle qu'en octobre 1940, un premier statut des Juifs a été mis en œuvre, c'est-à-dire un certain nombre de professions et d'emplois publics ont été interdits. Vous pouvez peut-être rappeler lesquels, Jacques Sémalin?
Il y en a tous les métiers dans la fonction publique, dans le journalisme, dans la culture, l'art, dans l'économie, etc. Il y a toute une liste d'interdictions professionnelles qui est instituée à partir d'octobre 1940. Et puis, ce statut est encore renforcé en juin 1941. Voilà. Mais ce qu'il faut aussi toujours avoir en tête, c'est que dès le début des juillet 1940, Vichy dénaturalise un certain nombre de Juifs français qui avaient le statut avant d'étrangers. Mmh. Donc, ils deviennent tout de suite très vulnérables.
Ils deviennent apatrides.
Apatrides, et donc possiblement arrêtables. Oui. D'accord. Puisque en octobre 1940, vous avez aussi une autre loi qui permet au préfet d'arrêter immédiatement les Juifs étrangers et de les mettre dans des camps. Donc quand on dit que Pétain a protégé les Juifs français, j'aimerais simplement qu'on rappelle cette réalité historique.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi, Jacques Sémalin, quelle a été la réaction de l'opinion publique française, si tant est qu'on puisse parler d'opinion publique à l'époque, de la réaction donc des Français face à ces mesures de ségrégation qui étaient quand même publiques, c'était pas clandestin.
Oui.
Est-ce qu'on savait ou est-ce qu'on savait pas, Jacques
Sémalin? Mais on savait pas, on avait quand même le regard ailleurs, la tête ailleurs, parce qu'il faut quand même...
Il fallait se nourrir.
Fallait déjà se nourrir, mais la France était à genoux. La France était considérée dans les années 30 avoir la plus grande armée au monde.
Oui.
En 5-6 semaines, tout ça s'est effondré. 7-8 millions de personnes sur les routes, c'est une catastrophe.
Un traumatisme absolu.
C'est un traumatisme absolu. Oui. Et si vous voulez, en septembre-octobre 1940... les gens, ils essayent encore de se tenir debout et ils sont extrêmement épuisés.
Ils tournent
leur
regard
ailleurs. Pas faire attention à ça. En revanche, mais il y a quand même des gestes d'entraide parce qu'on le sait, par exemple à travers les carnets quotidiens d'un journaliste à Paris qui s'appelle Jacques Bilinki, qui note tout ce qui se passe à Paris. Mais en revanche, il faut attendre l'été 42, c'est sûr, au moment des grandes rafles pour que là, une partie de l'opinion se réveille.
Alors, il y a un point aveugle aussi. Vous nous expliquez, Jacques Sémalin, dans votre livre, dont je rappelle le titre, donc une énigme française, pourquoi les trois quarts des Juifs en France n'ont pas été déportés, c'est chez Albin Michel, c'est que le statut des Juifs obligeait les Juifs à se faire recenser.
Oui.
Et ils ont admis cette mesure.
Oui.
Ils y sont allés.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Jacques Sémalin?
Mais d'abord, ils se sentent contraints à le faire et ils pensent que ça ne vient pas de Vichy mais des Allemands.
Mmh.
Voilà, c'est pas totalement faux, mais c'est pas complètement vrai parce que Vichy le souhaite. Et puis en même temps, vous savez, quand on est juif étranger, on veut être en règle.
Voilà.
Donc on va aller spontanément se faire recenser.
On fait ce qu'on nous demande.
Voilà. Et puis aussi, c'est pareil pour les Juifs français. Ils pensaient qu'ils n'allaient risquer rien parce que ils étaient français. Donc il y a une très large, une écrasante majorité de Juifs qui vont se faire enregistrer comme Juifs. Mais quand même, il y a un pourcentage qu'on peut difficilement évaluer, peut-être maximum à 10%. Qui sent le danger et ils ne vont pas y aller.
Alors, je me tourne un instant vers Laurent Larcher. Vous êtes co-auteur de ce livre avec Jacques Sémalin. Vous êtes journaliste à La Croix. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Vous avez travaillé sur les violences extrêmes, les conflits du Rwanda, de Centrafrique. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à ce dossier? Alors, je sais que vous êtes passionné d'histoire, mais suffit-il d'être passionné d'histoire et de violences extrêmes pour s'intéresser à ce dossier, Laurent Larcher?
Dans mon cas, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, j'ai une formation d'historien, d'une part. D'autre part, j'ai enseigné l'histoire. J'ai enseigné la Shoah. Cette question de la Shoah, évidemment, de ma génération, moi, je suis la troisième génération après la guerre, est structurante. Il y a un avant et un après. Ça, c'est très, très certain. J'étais aussi un élève de Notre-Dame de Sion. Enfin, j'ai béni dans une famille pour qui ces questions-là étaient essentielles. Il y a, si vous voulez, une préparation familiale et culturelle qui faisait que, et intellectuelle, puisque, encore une fois, je l'ai étudié aussi à l'université, qui faisait que je suis un ancien élève de Pierre Vinal-Naquet, par exemple. Donc, c'est évidemment des choses qui sont structurantes chez moi. C'est la raison pour laquelle je me suis ensuite intéressé autant au Rwanda dès 1994. Mais à cela s'ajoute autre chose, et exactement comme Jacques, quand on travaille sur les violences extrêmes, alors Jacques, lui, il les étudie du point de vue, je dirais, théorique, si je peux dire, enfin, il se plonge dans les témoignages, dans les livres. Moi, mon métier fait que je suis un témoin très proche.
Vous allez sur le terrain.
Voilà, c'est ça. Et j'en suis affecté, touché. Parfois même, évidemment, je...
Les journalistes ne sont pas tous blindés.
Non, non, et ça vous empoisonne.
Empoisonne, oui.
Absolument. Et ça vous donne aussi une image de l'humanité très, très négative, qui est la mienne. Enfin, du moins, vous parlez tout à l'heure de mes travaux sur la Centrafrique. Là, je suis en train de terminer un livre sur les violences extrêmes en Centrafrique dont j'étais le témoin. Il est clair que en voyant tout ça, j'ai eu le sentiment et la conviction même que l'homme est un tueur. Enfin, je me suis plongé dans tombé dans cette vision du monde très, je dirais, très sombre sur l'homme. Mais exactement comme Jacques, je crois, lorsqu'il est sorti de ses travaux sur les violences extrêmes, nous sommes tous universitaires, journalistes, mais aussi militaires, et évidemment, et encore plus les civils, nous sommes tous, ça nous abîme énormément, mais vraiment profondément. Et là, on passe de la vie, plutôt de la mort à la vie. On s'intéresse.
Il s'agit de construire une espérance, quoi, de voir un peu.
Disons que de se rendre compte que il y a aussi des vivants.
Merci de nous le rappeler. Voilà. c'est ce que Jacques Semelin écrit. J'ai noté cette phrase dans votre livre, Jacques Semelin. Vous écrivez : j'ai cherché un moyen de garder la tête hors de l'eau et hors du sang.
C'est ça.
Voilà.
Oui.
C'est ça votre démarche.
C'est vrai.
Alors, si vous le voulez bien, on va revenir par le son. On va revenir à cette époque noire. On va revenir en septembre 1941 à Paris, où s'est tenu ce qui était à l'époque le Palais Berlitz, qui, je crois, est devenu ensuite un cinéma. Le cinéma, c'était dans le 16e arrondissement, c'est ça le cas. C'était le cinéma Victor Hugo, qui n'existe plus aujourd'hui. Il s'est tenu une exposition intitulée « Le péril juif ». Et on va réécouter, pour nous remettre dans l'ambiance, ce que disaient les actualités françaises à l'époque de cette exposition sur le péril juif. Nous sommes en septembre 1941 à Paris.
À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Au pied de la gigantesque statue « La France nouvelle », se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Cézille prononce le discours d'inauguration. Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France.
Voilà, nous étions en septembre 1941 à Paris. Voilà ce que nous expliquaient les actualités françaises de l'époque. On a bien compris, 13 000 visiteurs, des classes, des groupes scolaires, des particuliers sont venus visiter cette exposition. Est-ce que ces propos sont significatifs, Jacques Semelin, de l'antisémitisme français de l'époque ?
Ah, l'antisémitisme français. Je reprends vos mots.
Oui.
L'antisémitisme tel qu'il est exhibé par cette exposition et par la propagande. Moi, en réécoutant ce reportage que j'ai entendu plein de fois, j'en ai à nouveau la nausée. On est dans Paris occupé. Voilà. Donc déjà, les Allemands sont là. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les visiteurs ou ceux qui en entendent parler au cinéma... puisqu'il y avait les actualités radiophoniques, enfin formation au cinéma, sont convaincus de cette approche du juif. Je n'en sais rien. En fait, on peut dire aujourd'hui qu'il y a un débat toujours réel parmi les historiens entre ceux qui pensent qu'il y a un antisémitisme fort en France en 1941. C'est la thèse de Robert Paxton et Michael Marus, mais elle a été largement contestée par d'autres historiens, dont le premier d'entre eux, c'est Pierre Laborie, le grand spécialiste de l'opinion, pour dire que ça ne correspond pas à l'état de l'opinion.
Voilà. Laurent Larcher, je m'adresse à vous aussi bien en tant que journaliste que historien. Il y a quand même une constante tout au long du début du XXe siècle, dans l'histoire en particulier de la droite française, il y a une constante antisémite.
Oui, ça c'est évidemment incontestable, non seulement dans la droite, mais aussi dans la gauche, et puis aussi dans le monde catholique. Moi, je travaille dans un journal qui s'appelle La Croix. La Croix, je dois à la vérité de dire que l'une des publicités ou des slogans du quotidien dans lequel je travaille, était à la fin du 19e siècle.
Au moment de l'affaire Dreyfus.
Mais à la fin du 19e siècle, La Croix disait qu'il était le journal le plus anti-juif de France.
Ensuite, il faut rappeler que ce quotidien a fait son mea culpa et sa repentance.
Oui, mais ça,
voilà. C'est une réalité.
Il a fallu attendre longtemps. Oui. Et du moins, nous sommes dans ce bain-là. Voilà. Ça, c'est évident.
On est dans ce bain idéologique. Jacques Semelin, vous rappelez que, et je pense que c'est un point important, que cet antisémitisme de Vichy que nous venons d'évoquer n'est pas le même que celui des nazis. Pouvez-vous préciser cette différence ?
Cette différence, elle est absolument fondamentale. L'antisémitisme des nazis, il est de type exterminateur, éradicateur. C'est un projet d'élimination de ce qu'ils appellent la race juive. L'antisémitisme de Vichy est d'une autre nature, en fait. C'est plutôt l'idée que les juifs ont pris trop de place dans la société, la société française s'est enjuivée, etc. Donc il faut les exclure des postes clés qu'ils occupent.
Mais pas forcément les exterminer.
Et pas du tout les exterminer, les rétrograder d'un point de vue de leur statut, de leurs droits, donc ils deviennent des sous-citoyens, et dit Pétain, les mettre à la campagne. Voilà. Donc, vous remarquez que le statut, d'ailleurs, je crois qu'un des premiers à le remarquer, enfin, en tout cas, je ne vois pas trop d'historiens qui l'ont fait, le statut du 3 octobre 1940 ne dit rien du secteur primaire.
Oui.
Il n'est pas interdit aux Juifs. Donc, le secteur primaire, c'est l'agriculture. Et donc, Xavier Vallat, Pétain et d'autres voient les Juifs à la campagne. Et
Xavier Vallat, qui était commissaire aux affaires juives. Voilà. Alors, vous nous rappelez, Jacques Semelin, que quand il l'a voulu, Vichy a pu tenir tête aux demandes des nazis, aux demandes de quantité de juifs déportés, en se fondant, écrivez-vous, Jacques Semelin, sur l'opinion publique et sur les positions de certains évêques. Pouvez-vous nous rappeler, nous expliquer cet épisode, Jacques Semelin ?
C'est un épisode très important. Donc, on est à l'été 42, on est dans le moment des grandes rafles, bien sûr avec celle du Veldiv, mais aussi dans la zone libre. Et là, nous avons plusieurs hauts prélats qui s'expriment, dont le plus connu est le Jules Saliège, l'archevêque de Toulouse, dont j'aimerais dire un petit mot complémentaire. Ah, vous voulez que j'en parle tout de suite?
Bon, voilà.
Mais écoutez, ayant fait nombre de débats avec des juifs et des catholiques, etc., je me rends compte que les catholiques ont peu de connaissances de leur histoire, de cette histoire dans la Seconde Guerre mondiale, et en particulier du rôle de Jules Saliège. Jules Saliège c'est un archevêque. L'archevêque de Toulouse était handicapé. Il ne pouvait presque plus parler.
Hein.
Et c'est cet homme qui était quasiment privé de parole qui a écrit 20 lignes le 23 août 1942 qui, je considère, sont l'honneur de la France. C'est-à-dire, il dit dans sa lettre pastorale qui doit être lue dans ses églises de son diocèse, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux, contre ses pères et mères de famille. Donc ces quelques mots ont eu un succès national.
Et il a fait lire cette lettre en chaire
dans son
diocèse.
Voilà. Ça a été un succès national parce qu'elle a été reprise par la presse clandestine, internationale, deux fois relayée à la BBC, et il se retrouve dans le New York Times du 7 septembre 1942, si ma bonne mémoire.
Donc un écho très important.
Et ce que j'ai découvert très récemment, puisque j'ai écrit, mais c'est mon troisième livre sur ce sujet, c'est que le général de Gaulle a fait de Saliège, l'a élevé au rang de compagnon de la libération. C'est le seul haut prélat catholique qui a cette distinction.
Alors même qu'il faut rappeler que Charles de Gaulle à la libération avait interdit de présence le cardinal Suard, l'archevêque de Paris, au Tédéum à Notre-Dame de Paris, et que par ailleurs ensuite, avec le nonce apostolique qui était le cardinal Roncalli, futur Jean XXIII, il a pratiqué, disons, une certaine, comment dire, peut-être pas une épuration, mais une mise à jour des listes épiscopales.
Donc je lance un appel à votre radio pour vraiment honorer la mémoire de Saliège, le 23 août 2022, parce qu'on sera dans le 80e, dans la mesure où j'en suis arrivé, ça fait des années que je travaille sur ce sujet, mais j'en suis arrivé qu'il y a deux discours publics qui insufflent l'esprit de résistance dans notre pays. Celui du général de Gaulle du 18 juin 1940 qui va vers la résistance politico-militaire. Bon, on le connaît, je veux dire, presque par cœur. Mais celui aussi de Saliège qui invite à une autre forme de résistance, de solidarité avec ces juifs persécutés étrangers. En plus, et Saliège, je termine sur mon petit couplet sur Saliège, il joint le geste à la parole, c'est-à-dire qu'il va ouvrir son diocèse à l'accueil d'enfants juifs, il va développer ses relations avec des organisations juives, l'œuvre de secours aux enfants, etc. Donc c'est vraiment remarquable. Alors bien sûr, c'est pas que lui, mais
il y a aussi Mgr Théas à Montauban. Il faut rappeler que dans les deux cas, les deux appels que vous citez, Charles de Gaulle et Jules Saliège, ces hommes se sont exprimés dans un certain désert. Peut-être, Laurent Larcher, vous pouvez rappeler que globalement, l'Église catholique a accueilli avec une certaine faveur, pour ne pas dire ferveur, l'établissement de l'État français par Philippe Pétain.
Ah ben, ça, bien sûr que la hiérarchie catholique et je dirais une grande partie des catholiques ont vu dans la Révolution nationale la réponse à la Révolution française.
Voilà.
Ça, c'est très certain. J'ajoute que on peut aussi voir dans les textes de l'été 40, donc qui suit la défaite des armées françaises, tout un discours en chaire qui justifie cette défaite en disant, voilà, nous avons été, ou la Troisième République nous a conduit la France sur les voies, je dirais, de la facilité, de l'impureté, donc c'est une forme de réponse de Dieu ou de punition, ça serait une punition divine cette défaite. Il y a toute donc on il y a l'Église catholique, enfin la hiérarchie catholique française participe beaucoup de, je dirais, de l'esprit de défaite. Ça c'est très aussi très documenté, je crois. Et à cela s'ajoute enfin un intérêt des échanges, chacun a intérêt à ce que qu'on se soutienne. Pétain instaure un programme qui est pas très loin quand même du programme d'une certaine vision de l'Église catholique du monde.
De l'époque,
la défense de la famille, la défense de la patrie, du travail. Ça, ce sont des choses qui résonnent évidemment énormément.
Le catéchisme qui redevient obligatoire dans les écoles.
C'est ça. On en finit avec 1905. L'éducation catholique, les écoles catholiques sont défendues, sont soutenues. Donc il y a un échange de bons services. Et Pétain a besoin de l'Église pour sa politique de collaboration. Donc il faut aussi, pour éviter la résistance, pour éviter, je dirais, que la population s'oppose à l'action du maréchal Pétain et de Laval surtout, il faut que les cadres, les institutions soutiennent le régime.
Les racines du présent, RCF.
Au micro Frédéric Mounier, aujourd'hui nous tentons de résoudre une énigme française. C'est le titre du livre co-signé par l'historien Jacques Semelin qui est à notre micro en compagnie du journaliste Laurent Larcher, journaliste au quotidien La Croix. Donc ce livre publié chez Albin Michel s'intitule « Une énigme française, pourquoi les trois quarts des juifs en France n'ont pas été déportés ?» Alors nous allons en venir maintenant au cœur de l'enquête que vous avez menée ensemble l'un et l'autre, puisque nous avons donc resitué le contexte général de la présence des juifs en France, le poids de la propagande, les différences entre l'antisémitisme de Vichy et celui des nazis. Jacques Semelin, vous avez identifié ce que vous appelez les trois écrans, les trois écrans qui ont en quelque sorte protégé une grande partie des juifs français. Alors ces trois écrans, vous allez nous l'expliquer, ce sont à vos yeux l'État, l'opinion publique et la capacité des juifs à résister à leur persécution. Expliquez-nous, Jacques Semelin.
En quelques minutes. L'État, ben oui, c'est ça revient à remettre en lumière mes anciens travaux sur toute l'Europe nazie, et on se rend compte que là où il y a un État qui est resté en place, comme par exemple au Danemark, et malgré tout avec la France de Vichy, eh bien les taux d'extermination sont plus faibles. En revanche, là où l'État a été anéanti, où l'administration et la haute administration est sous le contrôle direct des nazis, les taux d'extermination sont plus élevés. Ça veut dire, par exemple, vous l'avez souligné, les Pays-Bas, où il y a 75% de juifs qui ont été exterminés. C'est toujours un drame national.
Voilà. Mais lorsqu'on vous écoute, Jacques Semelin, on n'est pas très loin de cet argument qui a été porté par le candidat Éric Zemmour récemment. Lorsque vous écrivez les attitudes de réserve, voire de refus de ces gouvernements, et donc du gouvernement français, vis-à-vis des déportations, ont été de nature à différer l'application de la solution finale dans leur pays. Donc vous évoquez la France, le Danemark. Jusqu'où peut-on aller ?
Alors, il est très important, merci de poser cette question, il est très important de distinguer entre l'État, le maintien de l'État français, et le gouvernement de Vichy. Dans un débat récent, une personne me dit « Oui, mais vous comprenez, le gouvernement de Vichy a créé la zone libre et les Juifs se sont rendus en zone libre. » Oui, c'est vrai, c'est ce que je montre.
Bon, oui, d'accord. Vous le montrez très bien dans le livre.
Oui, mais la proposition est fausse. Ce n'est pas le gouvernement de Vichy qui a créé l'État français. Ce sont les accords de l'armistice.
Oui.
L'armistice est un accord international qui... pour des raisons sans doute très spécifiques à Hitler, enfin moi je ne suis pas spécialiste font qu'on maintient un État français qui a une certaine souveraineté politique, l'ogre nazi n'est quand même pas loin, un territoire, la zone libre et la citoyenneté. Bon, voilà, ça donc, c'est l'État. Mais qu'est-ce que va... Le gouvernement de Vichy n'est pas encore créé. Il va venir quelques semaines plus tard.
Et ensuite, ce gouvernement a pris des mesures discriminatoires.
Voilà.
Il a déçu les juifs de leur nationalité dès juillet 40. Ouais. Il a édicté, on l'a vu tout à l'heure, un statut discriminant dès octobre 40. Et il a autorisé l'internement des juifs étrangers en zone libre.
Autrement dit, ces atouts, on va dire, relatifs, qui résultaient de l'armistice, n'ont pas été utilisés par le gouvernement de Vichy en faveur des Juifs. La première chose, c'est qu'ils commencent à les dénétariliser. L'autre chose, c'est qu'ils se rendent en zone libre, ils créent des lois antisémites. Vous voyez ? Donc je distinguerais fondamentalement entre le maintien d'un État lié aux accords de l'armistice et la formation du gouvernement de Vichy, d'autant qu'on aurait pu imaginer un gouvernement de cohésion nationale, comme ça se passe au Danemark. Le Danemark, les deux pays où on peut faire des comparaisons du point de vue de l'État, c'est le Danemark et la France.
Vous croyez, Jacques Semelin, que Georges Mandel et Pierre Laval auraient pu gouverner ensemble ?
Ah, mais ça, j'en sais rien.
non, j'en sais rien. L'histoire.
Ça, j'en sais rien. Mais c'est tout une. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement danois dit bon, ben d'accord, on a l'autonomie, etc. Mais il n'est pas question de toucher aux Juifs parce qu'ils font partie de la cohésion, ils font partie de notre communauté nationale. Point. Bon.
Ce que n'a pas dit l'État de Vichy.
Ce que fait pas le gouvernement. Donc, s'il vous plaît. Voilà.
Okay. Alors, venons-en à ce qui s'est passé en zone libre, parce que vous insistez quand même là-dessus, sur le statut des territoires. Vous écrivez, Jacques Semelin, à la campagne, notamment en zone libre, on ne sait pas ce qu'est un juif. Vous écrivez également à propos du rôle de la SNCF qui a été mis en cause dans l'acheminement des déportés, l'acheminement ferroviaire des déportés. Vous écrivez, si la SNCF a conduit bien des juifs à la mort, il faut se rappeler que son vaste réseau local, dont nous avons oublié la réalité, mais il y avait des petits trains partout, son vaste réseau local a permis d'en mettre beaucoup à l'abri.
Oui.
Donc il y a eu comme ça une sorte de conspiration du silence, notamment en zone libre, Jacques Semelin.
Alors, conspiration du silence, c'est encore un autre fait qui est très important. Mais ce que j'ai mis en avant dans mes travaux, c'est la dispersion.
Oui.
C'est-à-dire ils vont tous, beaucoup, enfin pas que les Juifs, beaucoup de Français. Imaginez qu'un Français sur trois a quitté son domicile entre 1940 et 1944. Mmh. C'est énorme. Oui. Parmi eux, excusez-moi, il y a les Juifs.
Oui.
Et les Juifs, ils comprennent qu'il faut être le plus loin des Allemands possible.
Oui.
Et ils vont vers la campagne. Et donc, c'est ce phénomène que j'ai étudié avec différents entretiens. Ce livre, d'ailleurs, contient... je n'avais pas publié ces témoignages qui sont dans ce livre. Ils sont très émouvants.
Voilà. Oui, parce qu'au début, gens vous disent « je n'ai rien à vous dire ». Voilà. Parce qu'en fait, il s'est rien passé dans ma vie. Ils se sentent un peu coupables d'être survivants.
Oui.
Et en fait, ils racontent plein de choses passionnantes. C'est ce qui fait que votre livre est passionnant.
C'est, vous voyez, on n'en a même pas parlé encore, mais c'est moi ce qui me touche toujours. C'est qu'en fait, on a mis les Juifs non déportés dans le titre. Et à mon avis, il est très bon.
Mm-hmm.
Mais en fait, ce livre raconte l'histoire des Juifs persécutés en France. Parce qu'ils nous parlent de leur persécution. Et ils n'ont pas été déportés. Mais... quand même, quand on regarde l'histoire des familles, eh ben, il y en a quand même un ou deux qui a morflé, enfin, des gens qui ont été pris, etc. Donc, c'est jamais une histoire rose. Et dans cette adaptation à la persécution, ils vont à la campagne. Et ces relations à la campagne sont très diverses. Enfin, ça dépend où ils se trouvent. Mais c'est par là où ils estiment qu'ils vont s'en sortir. Et d'ailleurs, j'ai repris ce titre d'un collègue. Pour eux, année noire, année verte. Voilà.
Oui, c'est tout à fait paradoxal et tout à fait inattendu. Alors, vous évoquez la solidarité des petits gestes. L'ange gardien, l'hôte, le nourricier, le faussaire... le passeur, et vous évoquez plus globalement, Jacques Semelin, je vous cite, une résistance qui consiste non pas à tuer l'ennemi, mais à sauver des vies. Je me tourne vers Laurent Larcher qui désespérait un peu tout à l'heure du genre humain. Est-ce que ce travail d'enquête vous a conduit à réenchanter votre espérance, Laurent Larcher?
Attendez, il faut savoir ce qu'on appelle par espérance. Moi, je suis du côté de Bernanos quand il dit l'espérance, c'est le désespoir surmonté.
Oui.
Il ne faut pas être dans l'optimisme oui. béat de Pangloss devant Voltaire.
Mm-hmm.
Non, mais bien sûr, c'est là que c'est tout à fait intéressant. C'est que le livre montre que dans une situation de persécution extrême, il y a quand même des... dans l'humanité est complexe et elle peut basculer dans le mal comme dans le bien et les mêmes hommes d'ailleurs peuvent tout à fait être des deux côtés. C'est là où c'est tout à fait compliqué et là il est évident que, et notamment lorsque les Français vont se rendre compte qu'on persécute les femmes et les enfants, il y a quelque chose qui, enfin une partie des Français du moins, il y a quelque chose qui ne passe pas ou qui ne passe plus.
C'est ça.
Et même
c'est plus fort que tout.
Et même même lorsqu'on soutient le régime de Vichy, même lorsqu'on est antisémite, il y a quelque chose, même quand on est proche de Pétain, beaucoup vont se distinguer, vont se séparer, ne vont plus être d'accord. Il y a une ligne qui va être franchie, celle de l'été 42, les grandes ralphes de l'été 42, notamment celle du Veldiv, lorsque les Parisiens et au-delà des Parisiens, lorsque tout le monde va se rendre compte qu'on arrête encore une fois les femmes et les enfants.
Mmh. Parce que là, ça se voit, on les voit dans les bus.
C'est plus abstrait.
C'est vos voisins de palier qui sont pris.
Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le crime de masse est possible lorsqu'on reste dans l'abstraction.
Mmh.
Lorsque ceux qui l'ordonnent, le coordonnent, le fait faire, se réfugient dans l'abstraction. Mais lorsqu'on regarde, et lorsqu'on est les témoins, lorsqu'on touche, lorsqu'on incarne les ordres, les paroles, les consignes, là, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et lorsqu'on retrouve l'incarnation, oui, il y a un élan, il y a une révolte. Pas toujours,
c'est
sûr.
Ça.
Mais chez beaucoup de gens
ordinaires, à travers des gestes ordinaires,
on se rend compte de ce que c'est. On prend la mesure de ce que c'est.
C'est ça.
On prend la mesure que arrêter un homme, des femmes, des enfants, c'est pas pour les envoyer dans un camp de vacances.
Alors, est-ce pour cela, Jacques Semelin, que vous manifestez dans votre livre, et ça m'a beaucoup étonné, on parlait tout à l'heure du rôle important d'un certain nombre d'évêques catholiques et d'un certain nombre de responsables catholiques, mais néanmoins, vous exprimez des réticences, Jacques Semelin, sur la repentance de l'épiscopat français en 1997. On se souvient que à Drancy, le cardinal Lustiger, notamment, avait pris la tête d'une célébration de repentance, et vous êtes... comment dire, vous êtes sceptique là-dessus,
écoutez,
Jacques Semelin.
Cette déclaration, elle existe. Je la revisite, on va dire, après 10 ans de recherche sur ce sujet. J'ai eu envie de relire la déclaration de Drancy comme celle de Chirac.
Et on va en parler dans un instant. Ouais,
oui. Voilà, mais donc ça fait cette partie-là. Et en relisant donc là que j'avais connaissais déjà le discours de la déclaration des évêques, parce qu'ils sont pas tous assignés. Ça, je l'ai appris. En 1997, je l'ai trouvé excessif.
Ah oui, ils n'ont pas tous signé.
Ah non, d'accord. J'ai appris ça. C'est pas la conférence des présidents.
La repentance n'a pas fait l'unanimité.
Voilà, et il semble que le cardinal Justigier a joué un rôle pour inciter à signer ce texte, que tout le monde ne l'a pas fait. Moi, j'ai appris ça très récemment. Mm-hmm. Et en tout cas, je ne vais pas rentrer dans... Ce n'est pas mon rôle. Ce que je peux dire à la lecture de ce texte, c'est qu'il est excessif. C'est-à-dire que les protestations des évêques, de quelques évêques, c'est bien sûr, ils ne sont pas suffisamment nombreux, on pourrait en discuter, sont un peu minorés. On insiste surtout sur le silence. L'Église n'a rien dit au début de la version. Ben oui, mais qui a parlé ? Personne. Il faut attendre l'été. C'est Serge Klarsfeld. Nous avons fait un débat au Bernardin qui le dit. Ce sont les évêques catholiques qui ont parlé à l'été 42. On vient de le mentionner. Mais Laurent parlait des Français qui réagissent, etc. Oui. Mais la France, elle était à 90% catholique en 1942. Donc, ce sont des catholiques qui ont ces gestes d'entraide. C'est à peine évoqué. C'est à peine évoqué dans ce texte. Donc,
il y a un manque, là.
Manque, en tout cas. Ça mériterait d'être revisité. Ça mériterait d'être rediscuté.
Mais vous allez même plus loin, Jacques Semelin. Vous écrivez, encore aujourd'hui, nous sommes plus en 1997, mais encore aujourd'hui, je vous cite, « Tout se passe comme si les catholiques avaient intériorisé ces représentations négatives du catholicisme français de l'époque. » Vous pensez que les catholiques peuvent être un peu plus fiers d'eux-mêmes ou de leurs aïeux dans ce qu'ils ont fait, dans les gestes qu'ils ont posés pendant la guerre ?
Mais écoutez, c'est une impression générale que j'ai, pas seulement par rapport aux catholiques, mais aux Français, globalement, puisque je ne veux pas oublier les protestants. J'ai des amis protestants, je vais souvent au Chambon-sur-Lignon, etc.
Qui a été un village qui a accueilli.
Voilà, et puis allons-y aussi, mais aussi il y a des communistes qui ont aidé, etc. Enfin, c'est la France de l'époque, ce sont les instituteurs, c'est les républicains. Oui. Donc, si vous voulez, de mon point de vue, c'est. Ce travail, et je l'ai eu plusieurs fois, j'ai eu plusieurs fois témoignage à la fin de mes conférences, à M. Semelin, ça nous fait du bien. Finalement, on n'était pas tous des salauds, quoi. C'est-à-dire, on regarde toujours toujours à ce film, quoi. Donc, si vous voulez, ça s'adresse aux catholiques, plus particulièrement parce qu'ils ont été impliqués fortement dans la collaboration. Le régime de Vichy s'est appuyé sur l'Église catholique, comme a dit Laurent. Et donc, j'ai l'impression que c'est ça qui domine. Et que la partie, on va dire, plus lumineuse de l'aide des catholiques dans le... Alors, Léon, à la base, est complètement occulté. Et juste, je voudrais citer Léon Poliakov, qui est un grand historien de cette période, qui est un des fondateurs du CDJC, qui est devenu le mémorial de la Shoah. Il raconte, avec Isaac Schneerson, dès 1947-1950, le rôle des catholiques, à la base, qu'il appelle le bas clergé, prêtres, religieuses, dans l'entraide. Et tout ça, ça semble être occulté de la mémoire des catholiques aujourd'hui.
Merci de nous le rappeler, Jacques Semelin.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, nous tentons cette semaine de résoudre une énigme française. Pourquoi les trois quarts des Juifs français n'ont pas été déportés ? Tel est le titre du livre co-signé par l'historien Jacques Semelin et par le journaliste à la Croix, Laurent Larcher. Alors nous avançons dans votre enquête et dans notre compréhension du caractère paradoxal et complexe de cette époque entre 1940 et 1944 et avec la question du statut des Juifs. Alors on a évoqué tout à l'heure la repentance des évêques français, de certains évêques français, disons, d'après ce que vous nous dites, en 1997. Je voudrais en venir au débat qui a eu lieu autour du discours qui a été prononcé par Jacques Chirac le 16 juillet 1995, le fameux discours du Veldiv. On va le réentendre dans quelques instants. Ce discours a reconnu une faute collective de l'État français et vous avez mené l'enquête sur ce discours, Jacques Semelin. On l'écoute d'abord et ensuite vous allez nous expliquer votre enquête.
Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Chirac a présidé la cérémonie commémorant le 53e anniversaire de la rafle du Vel'd'Hiv. Pour la première fois, le chef de l'État a pris la parole pour reconnaître la responsabilité de l'État français dans les déportations des Juifs et lancer un appel à la vigilance contre toutes les intolérances. Sur place, Nathalie Saint-Cricq.
Jour anniversaire de la rafle du Vel'd'Hiv, les 16 et 17 juillet 1942, quelques 10 000 hommes, femmes et enfants juifs furent arrêtés par la police française puis déportés. La rafle avait pour nom de code Vent Printanier. Et en ce jour de commémoration, Jacques Chirac est revenu sans ambiguïté sur cette époque, Vichy, où, je cite, « la France manquant à sa parole, livrait ses protégés à leurs bourreaux ».
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
Un rappel aussi, celui d'une France qui n'était pas à Vichy, résistait et se battait contre le nazisme. Rappel des heures noires du passé, mais également appel à une vigilance, elle bien contemporaine, vis-à-vis de l'extrême droite.
Quant à nos portes, ici même, certains groupuscules, certaines publications, certains enseignements, certains partis politiques se révèlent porteurs de manière plus ou moins ouverte d'une idéologie xénophobe, raciste, antisémite. Alors, cet esprit de vigilance qui vous anime, qui nous anime, doit se manifester avec la plus grande force.
Voilà, nous étions le 16 juillet 1995 sur le site du Vel'd'Hiv. C'était un extrait du journal d'Antenne 2 à l'époque, le journal présenté par Bruno Mazur, et c'était notre consoeur Nathalie Saint-Cricq. Alors, ce fameux discours, dit discours du Vel'd'Hiv, Jacques Semelin, vous l'avez analysé parce qu'il a fait l'objet d'une polémique, notamment sur la responsabilité, disons une sorte de co-responsabilité de la France dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les termes de cette polémique, Jacques Semelin, et nous rappeler comment vous avez mené l'enquête?
Je voudrais vous dire quand même au départ que je me suis reconnu dans ce discours de Jacques Chirac en 1995 qui faisait rupture avec le silence de François Mitterrand, lequel avait été impliqué dans Vichy et connaissait bien René Bousquet. Bon, je ne vais pas en revenir. Chirac, c'est une autre génération. Donc je pense que cette parole était essentielle dans ce moment-là, de la France de 1995. Maintenant, je fais mon travail d'historien pendant près de 10 ans, et ça passe pas. Ce que je raconte sur les 75% des Juifs qui ont survécu, ça ne passe pas. Les journalistes ne reprennent pas, ou peu, etc. Les Français, j'en discute de temps en temps, ils me disent « Ah mais, il y a autant de Juifs qui ont été survécu ? Mais je pensais qu'ils avaient tous été exterminés, sauf une minorité par des Juifs. Mais non, monsieur, mais non, madame, vous n'y êtes pas. » Alors, j'ai cherché à comprendre ce blocage, ce mur.
Et le discours de Jacques Chirac a une part dans ce blocage.
C'est-à-dire que je suis revenu aux fondamentaux grâce à un collègue qui s'appelle Sébastien Ledoux, d'ailleurs, et j'ai voulu regarder de plus près le discours de Chirac et le discours des évêques, d'ailleurs. Et ce qui, la polémique qu'il y a eu, bien sûr, tout de suite après, c'est la France a commis l'irréparable.
Voilà. Alors, quelle France ?
Voilà.
C'est ça la question.
Voilà. La France a commis par là. Et j'interroge Badinter, qui est vent debout contre cette expression.
Voilà. Alors là, pour quelle raison ?
Eh ben, parce que la France est à Londres. Alors, c'est vrai que voilà. Chirac le dit, mais on l'a entendu. Mais ça passe, enfin, je veux dire, ça n'imprime pas dans le discours. C'est pas ça qu'on retient, c'est les premiers mots.
Alors, vous avez retrouvé la personne qui a rédigé ce discours. C'était donc Christine Albanel, qui était conseillère de Jacques Chirac à l'époque, et devenue ensuite ministre de la Culture. Et Christine Albanel vous a expliqué comment et pourquoi elle a tracé ces mots.
Ben oui, je dois dire que j'étais très honoré de rencontrer Christine Albanel, que je ne connaissais pas. Elle a accepté tout de suite notre entretien et elle m'a surprise parce que elle m'explique les circonstances dans lesquelles elle a écrit ce discours et qu'elle regrettait en partie d'avoir dit « la France a commis l'irréparable ».
Elle l'a regretté.
Oui, alors en même temps, elle dit, mais vous savez, Pétain, c'était la France, etc. Donc il faut que les gens lisent, enfin, faut que les lecteurs regardent ce
Est-ce que Jacques Chirac a hésité à prononcer ces mots ?
Eh bien, c'est ce qu'elle dit dans l'entretien. Elle lui montre le texte, parce qu'il a passé tous les filtrages de l'Élysée, mmh. etc. C'était une relation entre Christine Abanel et Jacques Chirac. Et elle lui dit, la France, vous êtes sûr? Et puis, il laisse passer.
Voilà comment on écrit l'histoire.
Mais il y a ce débat-là, mais si vous voulez, moi, j'ai, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a d'autres éléments dans ce discours qui posent problème. Je connais cette phrase par cœur. Je cite, il y a une faute collective.
Oui.
Alors, je dis à Badinter, mais attendez, si, c'est l'État, mais c'est la communauté nationale. Ben, il dit oui, l'État français, c'est les communautés. Donc, ça veut dire que les Français sont tous coupables.
Alors, voilà la question.
Waouh.
Oui.
Alors là, ça, je peux pas.
Ça, vous pouvez pas.
Ah ben
c'est ça. L'historien ne peut pas.
Ah non, ça, je peux pas. Je peux pas dire
cela.
Ça. Non.
Mm-hmm.
Non, non.
C'est une France et non pas la France qui a commis l'irréparable, Jacques Semelin.
J'en sais rien.
Oui.
Si vous voulez, moi, je pense que il aurait été mieux de dire la France de Vichy.
Oui.
Parce que ça collerait avec l'état d'esprit de Christine Babanel quand je l'ai rencontrée, parce que elle me dit, oui, je regrette, mais quand même, Pétain, c'était la France. Mais oui, oui, bien sûr, il représentait le maréchal, c'était pas rien, c'était la guerre de 14, etc. Donc, il aurait mieux valu dire, de mon point de vue, la France de Vichy a commis l'irréparable.
Mais vous allez plus loin, Jacques Semelin, vous évoquez, je vous cite, une guerre civile entre deux Frances.
Ah mais ça c'est Jacques Chirac.
Oui.
Pardon, c'est Jacques
oui.
Chirac qui dit ça.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai, c'est
oui,
vrai.
C'est vrai.
Entre dans l'année 1943-44, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui nous écoutent, mais on est dans la guerre civile. On est dans la guerre civile. Donc il y a une France qui est impliquée dans la défense de cet ordre, mais voir le film Lacombe Lucien, ce pauvre gamin
oui.
qui va se retrouver dans la ministre, etc. Mais il y a une autre France qui est à la campagne et pas seulement à la campagne, qui aide, qui planque. C'est pas que les Juifs. Il y a aussi les jeunes réfractaires au service du travail obligatoire. Il y a les résistants en cavale. Donc c'est tout ça qui fait mmh. que la France, dans cette époque-là, cette France-là résiste à l'occupation, à la persécution et à la répression. Donc, c'est pas si mis en évidence que ça dans le discours de Chirac. Donc, si vous voulez,
alors,
moi, je ne suis pas là pour juger. Mmh. Hein, je fais mon travail
oui, oui.
d'historien.
On vous entend bien. Alors maintenant, on arrive bientôt au terme de cette émission, Jacques Semelin et Laurent Larcher. Finalement, la question qui subsiste, c'est, Jacques Semelin, où c'est précisément situé la faute de Vichy ? Dans la question de la déportation.
La faute de Vichy, premièrement, elle est d'avoir commencé par persécuter les Juifs mmh. français et aussi étrangers. Et en commençant par persécuter les Juifs français, ils ont ouvert la voie à leur possible déportation. Ça, c'est début 40. D'accord?
Oui.
Enfin,
mmh.
septembre, octobre 40. La seconde faute de Vichy, faute morale, enfin moi je parle de faute morale mais aussi politique, c'est d'avoir accepté de faire déporter des Juifs étrangers et pas pour protéger les Juifs français comme certains le disent. Vichy était xénophobe et voulait se débarrasser des Juifs étrangers. Pierre Laval dit au début du Conseil des ministres de juillet 42, il faut se débarrasser de ces déchets, Dixit.
Donc on les ouais. a dénaturalisés.
Ben, les Juifs étrangers, ils n'ont pas besoin de dénaturaliser,
oui,
on les attrape.
Déjà, oui.
Et c'est ce qui provoque la réaction de Saliège, etc.
Y compris les enfants.
Y compris les enfants. Et donc,
on dit que Laval a résisté à la déportation des enfants.
Ben, je demande qu'on
voilà.
donne des preuves. Hein.
Ça n'est pas attesté.
Non. Mais c'est, Vichy mmh. rentre dans une logique criminelle.
Oui.
S'il y a un crime de masse qui a été commis dès cette mmh. époque-là en France, c'est à partir du moment où on arrête les femmes, les enfants. Et d'ailleurs, les gendarmes réagissent. Il y a des gendarmes qui pleurent.
Mmh.
On en a des témoignages comme ça. Donc, si vous voulez, ce qui va faire que Vichy va... on n'a pas parlé, mais va limiter, freiner sa collaboration, c'est la réaction de l'opinion qu'on a évoqué à
oui.
l'été 42, mais aussi des évêques. Et ça, il faut montrer le rôle important de Serge Klarsfeld.
Oui. Oui.
Serge Klarsfeld, dès 1983, mmh. dit, si Vichy freine sa participation à la déportation, aux arrestations et au train, c'est du fait des protestations de l'Église catholique en 42. Il écrit ça dans son livre de 83. Il n'y a aucune phrase dans la Déclaration des évêques de 1997 qui fait référence à ce rôle historique d'une partie des catholiques pour freiner la déportation.
Mmh. Laurent Larcher, vous co-signez ce rappel historique salutaire.
Oui, bien sûr. Là, j'écoute. Là, je laisse l'historien
s'exprimer,
bien entendu. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu viens de dire, Jacques.
Mais quand même, vous écrivez Jacques Semelin, Vichy ne voulait pas tuer les Juifs, mais Vichy s'est rendu complice. C'est le fond de votre travail de recherche.
Oui, il est rentré dans une logique criminelle. C'est-à-dire que je considère... Alors, c'est là où je suis proche de Serge Klarsfeld. La société française, du moins une partie de la société française, faut jamais généraliser, etc., a opéré comme une sorte de garde-fou. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va de plus en plus au sens propre, c'est-à-dire pour les empêcher d'aller dans une logique encore plus criminelle. Mais ça n'a pas été tout le temps, parce que après, vous voyez, 43-44, la guerre se développe, etc. Bon, on ne les entend plus, les évêques non plus, hein. Ils n'ont pas protesté une nouvelle fois en 43. Donc il faut prendre aussi en compte le contexte international. Vous savez, moi, j'ai une approche multifactorielle de la survie. C'est très important.
Ouais.
Si je veux quelque chose qui reste dans ma contribution à l'histoire de France, c'est cette approche multifactorielle. Et donc, à l'été 43, quand l'Italie perd la guerre, alors il se rétracte à nouveau. On ne va pas développer, mais vous voyez, c'est un nouveau garde-fou. Pour moi, les deux garde-fous fondamentaux ont été, d'une part, les réactions de l'opinion, de la société française, etc., et puis le contexte international.
Laurent Larcher, un dernier mot.
Oui, non, je voulais simplement dire qu'on n'oublie pas évidemment tous ceux qui ont été déportés. Il ne s'agit pas non plus de passer d'un extrême à un autre. Ce livre est aussi et d'abord un hommage et écrit en mémoire de tous ceux qui ont été déportés. Il est écrit en mémoire et en hommage à tous ceux qui ont été persécutés. Et bien entendu, en premier lieu, à tous ceux qui sont jamais revenus des camps. Et c'est vrai que ce livre est né d'une interpellation d'une rescapée d'Auschwitz qui elle-même s'interroge sur cette énigme française. Donc, ne faut pas entendre et lire ce livre comme une réhabilitation des choses et surtout une négation du crime d'extermination.
Surtout pas. On vous a bien compris.
Absolument.
Un grand merci à vous deux pour ce travail de recherche absolument passionnant. Un grand merci pour nous avoir aidé à comprendre cette période si trouble, si compliquée. Je rappelle le titre de votre livre que Jacques Semelin, historien, et Laurent Larcher, journaliste à La Croix, vous avez écrit ensemble. Une énigme française, pourquoi les trois quarts des Juifs français n'ont pas été déportés, c'est chez Albin Michel. Peut-être un mot rapide, Laurent Larcher, sur vos autres livres, sur d'autres drames que nous avons vécus. Rappelez-nous vos titres de livres.
Le dernier, avant celui-ci, c'était sur le Rwanda. Le Rwanda, il parle, un document pour l'histoire, où j'interroge tous les grands acteurs français de l'époque sur ce qu'ils ont dit, fait ou pas fait, entre 1990 et 1994, pour expliquer si oui ou non la France est responsable, voire complice du dernier génocide du XXe siècle.
Un grand merci à vous, un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission en balado-diffusion ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine.